Deuxième volet de ce que nous avons vu la semaine dernière, et vous avez compris que je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu concernant la prière. J'ai intitulé cette proclamation de la parole de Dieu, parce que c'est une proclamation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est à être proclamée. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Je vais prier encore. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'elle est vie. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton esprit dans nos vies maintenant pour comprendre ce que ta parole veut nous dire. Seigneur, tu ne parles pas en vain et nous voulons plonger nos regards dans ta parole. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir notre cœur parce qu'il est question d'un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Si nos cœurs ne sont pas touchés ce matin, cela ne sert à rien. Je te prie, Seigneur, de toucher nos cœurs. Nous qui avons souvent des cœurs durs, je te prie, Seigneur, par ton esprit, de faire ce miracle de l'intervention dans nos vies, Seigneur. Afin que ta parole prenne vie, montre-nous par ta révélation. Tu nous as tout donné dans ta parole. On a besoin maintenant de la révélation de l'Esprit pour comprendre ces choses, pour saisir ces choses par la foi, Seigneur, pour les ancrer dans nos vies, Seigneur, pour transformer nos vies. Je crois vraiment à ta parole. Nous croyons en ta parole, Seigneur, parce que ta parole est vie et parce qu'elle va faire jaillir des choses extraordinaires. Dans le nom de Jésus, dites aussi Amen avec moi. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Vous vous souvenez de ce passage de Marc au chapitre 9, Marc 9, 23. Vous connaissez ce passage, ce père qui est complètement désespéré, qui ne voit pas d'issue pour son fils, qui est pris de quelque chose absolument épouvantable. Et au verset 23, il a dit « Si tu peux », Jésus lui dit « Si tu peux ». Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Le Seigneur veut un cœur sincère ce matin. Amen. Tout est possible à celui qui croit, mais peut-être que tu n'en peux plus ce matin et tu peux le dire au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire tout est possible à celui qui a la foi, à celui qui engage sa foi, c'est le même terme. Tu as la foi ce matin? Amen, tout est possible. Alors attention, pas selon tes caprices, parce que souvent on prend ce prétexte pour arranger nos agendas, vous êtes d'accord? Non. Tout est possible à celui qui croit dans la mesure de la grâce du Seigneur, de la vérité de sa parole, bien entendu. Dimanche passé, j'ai abordé ce terme sur la prière, tout ce qui est donc de la prière, de l'importance de la prière, de prier sans cesse. Et je lisais ces deux prières de Calvin. J'ai eu quelques personnes qui sont venues me demander où je les ai trouvées. Alors bien sûr, merci à la toile, au web. Vous tapez « prière de Calvin », vous aurez la prière du matin, la prière du soir, si jamais pour ceux qui étaient intéressés dans le cadre de ce que j'ai partagé au niveau de la prière. Bien sûr, nous sommes au 500e de la Réformation. Nous sommes dans la ville de Calvin. C'est important de pouvoir le dire. L'adoration. Dans le cadre de la prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de prendre ce passage que nous avons maintenant dans Jean au chapitre 4 concernant la prière au niveau de l'adoration? C'est aussi une étape dans la prière et cette étape commence par là lorsque nous rencontrons le Seigneur. Vous connaissez le contexte de la Samaritaine, vous connaissez aussi peut-être que c'était une terre, on va dire, qui était maudite malheureusement. Que les Juifs ne passaient pas par la Samarie, parce que la Samarie avait été peuplée d'un mélange de nations. Nous remontons au 8e siècle avant Jésus-Christ, avant la venue de Jésus. Et en période d'Assyrie, il y a eu cette déportation assyrienne. Et le roi d'Assyrie a peuplé cette région de Samarie avec d'autres peuples. Et pour les Juifs puristes, la Samarie était une terre impure, qui était infranchissable, et les docteurs de la loi, lorsqu'ils se rendaient du nord au sud ou du sud au nord, faisaient toujours un détour pour ne pas passer par la Samarie qui était impure. C'est important de voir ce contexte parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu veut révéler dans sa parole, de nouveau au niveau de ce chapitre 4, sur la Samaritaine. Ce qui est étonnant de voir, c'est que Jésus va enfreindre cette coutume par son amour et il va passer par la Samarie. Et le Seigneur dans ta vie, alors que peut-être tu te sens rejeté, parce qu'alors quel rejet, vous vous rendez compte, hein, c'est un peuple qui était pour les pharisiens, pour les juifs de l'époque, pour les puristes, absolument impurs. Tu parles d'un rejet, tu parles de quelque chose de difficile et Jésus passe dans ton rejet ce matin. Amen. Le Seigneur veut passer dans ta Samarie. Le Seigneur veut passer dans ta vie. Il n'y a pas de passage où le Seigneur ne veut pas passer. Il passe exprès. Il passe exprès par la Samarie. Et il rencontre cette Samaritaine. Il est au puits. Et là, Jésus va aussi enfreindre de nouveau quelque chose que les puristes, que les juifs, surtout les docteurs de la loi, ne faisaient pas. C'est de parler à une femme. Et Jésus commence à parler avec cette femme. Vous pouvez voir aussi, si vous relisez ce récit, que les disciples sont un petit peu empruntés parce qu'ils le savent. Ils ne demandent même pas ce que Jésus parlait avec cette femme. C'est étonnant de voir cela et c'est une grâce de voir et d'ouvrir nos yeux dans la parole de Dieu, dans cette grâce de savoir que le Seigneur veut passer par mes rejets, par ma Samarie. Regarde, au verset 20, chapitre 4 de Jean. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem. Dans ce terme de femme, il y a un tremblement de terre au niveau des pharisiens. Femme, comment est-ce que Jésus peut parler à une femme? Regardez ce qu'il va lui révéler. À une femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et je le redis encore ce matin, car le salut vient des Juifs. Il y a peut-être une sensibilité ce matin qui te touche en sachant que, ou en relisant peut-être que le salut vient des Juifs, c'est la parole de Dieu qui le dit, respectons le peuple d'Israël. Car sans Israël, il n'y aurait pas eu de salut pour nous. Attention à la théologie du remplacement, attention à penser que l'Église est venue remplacer Israël. C'est un scandale, nous le dénonçons, c'est faux. Verset 23, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Vous vous rendez compte, dans un rejet épouvantable, c'est une clé. Jésus révèle l'adoration. Waouh ! Dans les galères de ta vie, alors que tu as peut-être été rejeté, mal aimé, le Seigneur veut te rejoindre pour te révéler ce que c'est que l'adoration en esprit et en vérité. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une révélation de la parole de Dieu. Est-ce qu'on a lu ces textes ? Est-ce qu'on a compris cela ? Alors que j'ai un rejet dans ma vie, que je suis rejeté au sein de ce rejet, le Seigneur te révèle qu'il y a l'adoration avec le Père et que tu peux l'appeler Père. Moi qui suis rejeté, moi qui suis mal aimé, nous sommes au cœur de l'adoration là. Et c'est extraordinaire. Le Seigneur veut te sauver ce matin, veut te tirer de ces rejets et il veut te révéler ce cœur de Père, ce cœur qui te rencontre. Ce cœur qui veut se joindre à son cœur pour que tu tombes à genoux et que tu lui dises « Oui Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Moi, je le suis qui te parle. » Jésus te dit ce matin dans ton rejet. C'est absolument... Moi, je suis bouleversé, les amis. Il me semble que je redécouvre ces choses, l'adoration au sein du rejet. Toi, peut-être, qui crie ce cri depuis tant d'années, que tu as été rejeté, incomprise, incompris. C'est le cœur d'adoration du Père qui te rejoint ce matin. C'est l'amour de Jésus. C'est extraordinaire. La parole de Dieu est extraordinaire. Seigneur, révèle-nous ces choses. Je veux être bouleversé par ta parole, Seigneur. C'est tellement extraordinaire. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Il y a des pères. J'espère que je peux te communiquer ce matin l'amour de la parole de Dieu, que tu puisses vraiment relire ces choses par l'Esprit que Dieu vient de te révéler. On n'est pas là pour essayer de faire des démonstrations textuelles, je ne sais quoi, c'est très bien, mais on va beaucoup plus loin. Par l'Esprit, nous voulons lire la parole de Dieu et nous voulons revoir ces choses. L'adoration au sein du rejet, c'est mon premier point. J'étais en visite de cellule cette semaine chez Richard Pittet et ce qui m'a touché, c'est qu'il a repris un texte de Romains 8 que vous connaissez, et je vous encourage peut-être dans vos cellules de reprendre peut-être ce qui a été dit les dimanches. Peut-être c'est un bon moyen de construire, de voir peut-être ce qui a été compris, d'avoir un échange avec vos frères et sœurs dans le cadre de la cellule. Je ne vous l'impose pas, mais j'étais touché que Richard reprenne ce thème qu'on avait vu la semaine dernière, donc sur la prière, et je pense que c'est bon de le faire dans les cellules pour essayer de garder un fil rouge, pour, voilà, parce qu'on ne prétend pas voir tout ce qu'on aimerait voir le dimanche, vous êtes d'accord? Et regarde au chapitre 8 de Romains, et c'est une base, ces deux premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et je proclame cela sur ta vie. La loi de l'esprit de vie, c'est l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ communique la vie, te libère, je dirais même, t'a libéré une fois pour tout de la loi du péché et de la mort. Est-ce que tu peux proclamer cela ce matin? Amen, on le redit. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie, proclame-le, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il faut le proclamer, c'est la parole de Dieu, tu n'inventes rien, tu cites la parole de Dieu, tu la prends pour toi par la foi. Versets 26, 27. De même aussi, bien sûr, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, Richard le citait très justement jeudi chez lui. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, c'est-à-dire de ceux qui se mettent à part pour le Seigneur. On doit se mettre à part pour le Seigneur, bien entendu. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Le terme là, c'est asthénia. Asthénie, c'est tout ce qui est maladie, infirmité, faiblesse. Bienvenue dans la maison du Seigneur, toi qui te sens faible. Bienvenue dans la maison du Seigneur, toi qui te sens peut-être infirme. C'est là que l'Esprit vient à ton secours. Amen. Cette parole est pour toi. Il n'y a pas besoin de jouer au caïd. Qu'est-ce qu'on est? Ma force est vaine. Je préfère, comme Paul, dire, je veux me glorifier dans ma faiblesse. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Alors on ne va pas se martyriser exprès. Mais on a tellement de galères dans nos vies, on a tellement de choses difficiles, on en vient à ce point d'être faible, de tomber à genoux. Vous en souvenez, comme dimanche passé, Jésus qui tombe à terre au moment de la croix, dans sa faiblesse, et toute la gloire de Dieu va se révéler. Amen. C'est de cela que nous sommes animés, bien-aimés. De cette grâce du Seigneur qui vient au secours de notre faiblesse par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui vient au secours de ta faiblesse. Et puis, l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Ça t'est déjà arrivé peut-être parfois. Tu ne sais plus comment prier. Tu es en connexion avec le Seigneur. Tu soupires. Et cette intercession par des soupirs, c'est extraordinaire. J'ai regardé la racine, c'est que nous sommes vraiment dans le cœur de Dieu, là, dans cette intercession-là. On rejoint le cœur de Dieu, voyez, qui intercède pour nous par ses soupirs. Et dans ce terme d'intercession, alors là même naît la semence que Dieu veut mettre dans ton cœur, une semence qu'il va développer. Il y a comme un enfantement dans cette intercession, bien-aimé. C'est le terme grec pour intercéder. Tu es dans le Seigneur, connecté avec lui, et alors que tu intercèdes même par des soupirs inexprimables, j'espère que ça te libère ce matin, il y a alors quelque chose qui est enfanté pour le royaume de Dieu par l'Esprit du Seigneur sur ta vie. C'est tellement fort. Merci Seigneur pour la richesse de ta parole. Alors bien sûr, il y a cette collaboration de l'Esprit de Dieu dans l'adoration, au sein même, peut-être, du rejet que tu es en train de vivre. Je le répète, la collaboration de l'Esprit de Dieu qui t'aime tellement au sein de l'adoration et au sein de ton rejet. Verset 28 de Romains 8, on le connaît, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu veux le prendre par la foi ce matin, cela? De ceux qui sont appelés selon son dessein, tu te rends compte, le Seigneur t'a appelé depuis la fondation du monde. Tu es dans le plan du Seigneur, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés dans la préscience du Seigneur. On en a parlé en mardi passé dans l'étude où Dieu connaît toutes choses. Même il a connu la chute avant qu'elle arrive. La grande question, pourquoi la chute? Je te laisse avec cette question, j'espère qu'elle ne va pas trop te perturber jusqu'à la fin de ce dimanche, mais on se l'est posé mardi soir. Pourquoi est-ce que Dieu a permis la chute? Il y a un plan là derrière. Dieu a toujours un coup d'avance, amen. Il n'est jamais pris par des circonstances. Dieu orchestre tout et Dieu orchestre tout dans ta vie. Tout ce qu'il a prédestiné en quoi à être semblable à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et dans cette image de son fils, il y a cet enfantement souvent dans la souffrance parce que bien-aimé Jésus a aussi souffert. Notre vie passe par la souffrance. C'est pourquoi c'est un chemin étroit. On ne va pas se glorifier dans la souffrance, mais il y a la souffrance parce que vous savez que Jacques 1 le dit, que 1 Pierre 1 le dit. Si l'or et l'argent sont éprouvés par le feu, ça fait mal le feu, hein? À combien de fortes raisons votre foi est aussi éprouvée par les épreuves? Parce qu'il y a le cœur de Dieu dans l'épreuve. Et Dieu te donne rendez-vous avec lui au sein de l'épreuve. Pas besoin de l'appeler, l'épreuve, on le sait, elle arrive souvent toute seule. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Tu es justifié dans le Seigneur. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Je laisse lire le reste de ce passage absolument extraordinaire. Mais nous sommes déclarés justes grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur. La prière comme deuxième point du juste. Premier point, c'est l'adoration au sein du rejet. Deuxième point, la prière du juste dans Jacques 5. Vous connaissez ce passage de Jacques chapitre 5 à partir du verset 7. Prenez donc patience, frères, on rajoute les sœurs bien sûr. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Pasteur Walter en a parlé aussi dernièrement. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, prenez patience, affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche et je dirais même très 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 proche maintenant. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Combien il est à la porte. Prenez mes frères et sœurs, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Alléluia. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job. Ouh là, on est en plein contexte là. De cet homme qui a été complètement anéanti avec sa famille et qui a tenu bon. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Dans le sein de l'épreuve de Job, oui aussi. C'est vrai, quand on est prouvé comme Jean, moi, souvent, Seigneur, toi qui es rempli de compassion et de miséricorde, comment ça se fait que tu peux permettre ce genre de choses? Et pourtant, le Seigneur est rempli de compassion et de miséricorde parce qu'il y a un aboutissement dans tout cela. Amen. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que nous ne tombiez pas sous le jugement. À un moment donné, tu n'as plus de mots à dire, c'est soit oui Seigneur, soit c'est non. Mais il faut que tu te positionnes ce matin. Soit tu continues sur cette route et tu dis oui Seigneur, je suis d'accord avec ce programme, ou soit tu y dis non. Le Seigneur te laisse libre. C'est peut-être frappant, c'est peut-être choquant, je ne voudrais pas vous provoquer ce matin, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. On parle aussi de ce oui soit oui dans les choix et non soit non dans des choix, on est d'accord. Mais là, nous sommes placés devant le Seigneur dans notre vie qui est parcourue de choses parfois difficiles, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? Le verset 15 amène la prière de la foi, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés. C'est aussi ça la prière. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante, on est dans le cas de la prière de foi, la prière rendue énergique du juste à une grande efficacité. Vous vous souvenez du terme de la prière, c'est de se tourner vers le Seigneur en étant bien disposé, le terme veut le dire, pour demander quelque chose de bon. Et on retrouve cela aussi dans la dimension de l'adoration, dans le terme d'adorer, il y a aussi cette dimension de se tourner vers le Seigneur, de se tourner vers l'adorateur, de se tourner vers lui. Je me tourne que vers toi, Seigneur, dans l'adoration. Lorsque je t'adore, Seigneur, il n'y a que toi. J'ai rendez-vous avec toi. Lorsque je prie, Seigneur, il n'y a que toi. Et c'est pour demander quelque chose de bon. C'est pour souhaiter quelque chose de bon, Seigneur. Regarde, verset 17, ça nous console. Élie était un homme soumis aux mêmes passions que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré ou loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. J'ai comme l'impression que ces textes reprennent toute une ampleur absolument extraordinaire. Quand je parle de la prière du juste qui a une grande efficacité, bien sûr qu'on fait référence à ce que je viens de lire avec vous dans Romains 8, que nous sommes justifiés au travers de Jésus-Christ, de son pardon. Ce n'est pas ma propre justice ou la prière que je vais construire par rapport à ma propre justice pour formuler quelque chose du Seigneur. Non, c'est le fait de dire « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, je sais que c'est toi qui me justifie par le sang qui a coulé à la croix, c'est toi qui m'as prédestiné, c'est toi qui me déclare juste et alors je peux intercéder d'une manière efficace, amen, et d'une manière agissante parce que je suis réfugié en toi dans le cadre de l'adoration, alléluia. Lorsque tu pries le Seigneur, regarde dans le chapitre de Jean, chapitre 16, c'est important aussi de réaliser, on va parcourir ces 2-3 choses encore, Jean 16, au verset 13, la venue de l'Esprit, c'est important d'être baptisé, bien entendu, dans l'Esprit. J'avais l'impression ce matin que le Seigneur veut en visiter plusieurs dans le baptême de l'Esprit. On a besoin d'être renouvelé, il recherche le baptême dans l'Esprit. Et au verset 13 de ce chapitre 16, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. C'est important de prier dans l'Esprit, c'est important de prier par l'Esprit et l'Esprit va te conduire dans toute la vérité. Amen. Dans toute la vérité de la parole de Dieu, dans ces révélations absolument extraordinaires. Peut-être que tu as peur ce matin de l'Esprit, peut-être que tu as peur de t'ouvrir à la vie de l'Esprit. Oh, il y a peut-être un risque effectivement parce que Dieu va te montrer certaines choses, mais c'est quelque chose de parfait, de bon. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Est-ce qu'un père va-t-il donner un serpent à son fils quand il va lui réclamer du pain ? Alors le père, combien le père donnera-t-il l'esprit à ceux qui le lui demandent ? Tu veux l'esprit du Seigneur, la plénitude de l'esprit, tu veux être baptisé dans l'esprit, le Seigneur veut le faire. Oriente ton cœur, oriente ta vie, oriente tout ce qui est en toi vers le Seigneur dans cette adoration et le Seigneur va te baptiser dans l'Esprit. J'en suis convaincu. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à tout enfant de Dieu qui l'aime et qui choisit de le suivre jusqu'au bout. 1 Timothée 2, versets 1 à 8. Et là, je fais référence à Jacques Cornu ce matin. Il se reconnaît. Parce que c'est le passage qu'il a mis ce matin dans la pensée du jour. Merci beaucoup pour ton boulot, Jacques. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières de nouveau là. Intercession, action de grâce. C'est tout ce qu'on a un petit peu vu dimanche passé dans toutes ces formes de prières. pour tous les hommes. Si tu veux faire quelque chose de bon devant le Seigneur, mais prie pour tous les hommes. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Regarde, la parole de Dieu te le dit ce matin, 1 Timothée 2, verset 1. Et c'est Paul qui exhorte à Timothée de prier pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont dans une situation élevée, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est vrai, ça demande de l'humilité, de prier pour nos politiques. On n'est pas forcément d'accord avec les politiques, etc., avec peut-être les décisions, etc., mais Dieu veut me ramener à cette dimension d'humilité. Je dois rester humble, ce sont des personnes qui ont été placées, qui sont élevées en dignité. Le Seigneur veut que je les bénisse, que je prie pour eux. Il ne faut pas t'étonner si les choses vont mal dans la ville. Qu'est-ce que tu fais pour la prière et l'intercession pour ta ville? Ce n'est pas une culpabilité ce matin, mais des fois on a tendance à blâmer nos politiques. J'étais un moment intéressé à faire de la politique, quand j'ai vu comment ça se passait, j'étais presque découragé. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils tiennent le coup dans la politique. C'est la loi de la jungle, enfin bref, je ne suis pas là pour en parler, vous savez ce que c'est, mais vous vous rendez compte, les enjeux qu'il y a sur notre ville, bien-aimée, et combien Dieu nous exhorte aussi par cela de vraiment prier, d'intercéder pour eux, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété, en été. Merci Seigneur pour Genève, qui est encore paisible et tranquille. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, même les politiques, amen. Et parviennent à la connaissance de la vérité, mais vraiment la vérité, vous vous rendez compte, si nos politiques découvrent la vérité en Christ, mais quel bouleversement, c'est plus que Calvin le 500e. C'est la parole de Dieu, ce qu'on prend au sérieux, la parole de Dieu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'étais moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Merci Paul. Docteur des païens, la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. C'est là que le Seigneur va entendre les prières. Quelque chose qui me revient à l'esprit, que je n'ai pas forcément prévu de dire. Il a aussi dit que Dieu va accéder à la prière d'un homme pour autant qu'il respecte sa femme. Souvenez de ce passage dans la parole de Dieu. Des fois, on ne sait pas pourquoi en tant qu'homme on n'est pas exaucé. Comment est-ce que tu traites ta femme? Comment est-ce que tu traites ta femme? Comment est-ce que tu traites ta famille? Comment est-ce que tu traites ton foyer? Je t'invite peut-être à retrouver aussi ce passage dans la parole de Dieu. Ne t'étonne pas peut-être que la prière n'est pas exaucée. Regarde comment est-ce que tu traites ta femme. Est-ce que ta femme est toujours cette princesse? Est-ce que c'est toujours cette biche des amours, cette gazelle des amours? Bon, Nicolas, il n'y a pas de souci, hein, je sais que, hein, amen. Mais nous qui sommes un peu plus vieux comme moi, 31 ans de mariage cette année, gloire à Dieu. Mon Annabelle, qui est la plus belle, alléluia. Je veux être enivré de ces amours. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Fais de la femme qui est à côté de toi ta fierté, ta compagne, cette biche extraordinaire, la meilleure de tes amies. Je peux dire que mon épouse, c'est ma meilleure copine. Ça, c'est super. Quelle grâce dans le cadre du foyer de pouvoir dire tu es mon amie, tu es ma copine, je t'aime. Et c'est un amour grandissant avec les années, n'est-ce pas, mes frères? Fais tout pour entretenir cette flamme d'amour. Alléluia, Jésus. Priez toujours. Priez. Toujours, Luc 18, priez toujours, Luc 18. Alors là, il y a aussi une clé, bien-aimé. Luc 18, connaissez cette veuve qui vient casser la tête à ce juge. C'est une parabole, mais beaucoup plus qu'une image, c'est la réalité. Et j'aime mieux vous dire que dans ce chapitre 18, bien-aimé, si vous le parcourez, il y a des clés absolument extraordinaires, comme partout dans la parole de Dieu. Troisième point, prier toujours. Donc premier point, l'adoration au sein du rejet. Deuxième point, prière du juste. Troisième point, prier toujours. Jésus leur dit une parabole pour montrer. Alors là, on écoute bien qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Mais ça, c'est une communion qu'avec le Seigneur. Ben, sinon, tu deviens légaliste. Tu ne peux pas le faire d'une manière légaliste. C'est connecté avec l'Esprit de Dieu dans ton cœur, par ton esprit, l'Esprit qu'il y a en toi. Tu ne peux pas provoquer ces choses. C'est une connexion avec le Seigneur. Sinon, tu vas te fatiguer. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Regarde le contraste entre le juge élevé en dignité et la pauvre veuve. contraste. Pendant longtemps, il refusa. Vous voyez, la témérité, ou plutôt le fait qu'elle soit absolument décidée. C'est comme Simon qui dit, Seigneur, qu'on soit des pitbulls pour toi. Quoi. Tu lâches pas le morceau. Elle lâche pas le morceau. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai eu d'égard pour personne, rendez compte le cœur de ce juge. Néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Moi, j'aime bien cet humour de la parole de Dieu. Ça me rejoint, ça. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderait-il à leur égard? Est-ce que tu as déjà crié jour et nuit à Dieu? Peut-être c'est le temps de le faire. Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je ne veux pas mettre de joue étranger, mais là, il y a quand même un exemple. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il faut que tu soulignes en rouge, en orange, en tout ce que tu veux, la deuxième partie de ce verset 8. S'il te plaît, peut-être que tu le découvres aujourd'hui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, quel rapport y a-t-il avec la foi? Je voudrais l'entendre. C'est quoi? Il faut que vous le trouviez avec moi ce matin. C'est quelque chose de la révélation de la parole de Dieu, de nouveau là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ne comprends pas. J'ai besoin d'une révélation, Seigneur, on est là pour la découvrir ce matin. La prière, c'est en intercédant, en priant, qu'il y a la dimension de la foi qui se développe en toi. Regarde le verset 8 de ce passage. C'est une clé. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je dis oui si nous continuons à prier, à intercéder. Jésus commence son chapitre, qu'il faut toujours prier, ne pas se lasser. Il termine cette portion de l'écriture, trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Et il y a une relation directe. C'est comme ça que nous devons lire la parole de Dieu, bien-aimé. Nous devons la remettre dans son contexte. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Si tu comprends pas, tu lui demandes, le Seigneur va te le révéler. La foi est directement en relation avec la prière et aussi avec la parole de Dieu, parce que, bien entendu, tout ce qui provient de la foi provient de la parole de Dieu. Vous en souvenez aussi, la parole de Dieu le dit, La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as besoin de foi, je me rappelle, j'ai eu un moment de relâchement dans ma vie, tout pasteur, et oui, je le confesse, que j'ai été où je lisais moins la parole de Dieu, et tout d'un coup, j'étais étonné que la foi, elle commençait à vachement vaciller dans ma vie. Et je me suis remis à lire la parole de Dieu, tu aurais dû voir le boost de la foi que j'ai eu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vas avoir une foi fortifiée, nourris-toi de la parole de Dieu, comme on le fait ce matin, il y a des perles qui seront révélées, et la foi aussi est en rapport avec cette connexion par la prière. Amen. Et par l'Esprit. Si on va un petit peu plus loin, regardez ce qui se passe après, la prière. Il y a la prière du monstre hypocrite qui suit là. Ça, c'est aussi une révélation. Quand Jésus nous donne ces textes, prenez-les. Je ne veux pas être moralisateur ce matin, excusez-moi, mais je suis un petit peu animé de nouveau, excusez-moi. C'est tellement faux. Il y a le pharisien, le péager. Regarde celui-ci comme il prie. Moi, je ne suis pas là pour prier comme celui-ci qui a la face contre terre, etc. La prière du pharisien juste, propre juste, est la prière du péager qui s'humilie et lequel va ressortir justifié de sa prière. On le sait, c'est le péager, pas le pharisien qui est propre juste. On est dans le cadre de la prière. Comment est-ce que j'exerce ensuite la prière? Est-ce que je vais me gonfler d'orgueil parce que voilà, maintenant je prie, je suis bourré de foi, et quand il y a un frère qui s'humilie pour son péché, regarde, moi je ne suis pas comme lui. Catastrophe, c'est un avertissement, ça c'est la suite de Luc 18, c'est le contexte, il faut que j'incarne ces choses, on est très fort pour juger, pour se croire propre juste, c'est tellement facile. Et après j'en ai parlé. Plus loin, la bénédiction de Jésus pour les petits. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, restez simples comme des enfants. Et c'est tous des messages que Dieu nous donne dans sa parole. Les petits-enfants, après cet événement du pharisien et du péager, on a les petits-enfants, ces petits nourrissons, voilà, ça brinque pas mal. Des fois, ça sent pas très fort, enfin, ça sent plutôt fort, ça sent pas très bon. Qu'est-ce que tu fais avec ces enfants, Jésus? voyez, ça me heurte, ça heurte mon orgueil, ça heurte ce qui peut me déranger. J'ai besoin d'être touché par la parole de Dieu. J'ai besoin d'être secoué. Qu'est-ce que ces petits-enfants font? Mais Dieu veut m'enseigner dans ce chapitre 18. Alors les disciples, bien sûr, ils n'ont rien compris. Ils rabrouent les parents. Mais c'est pas le temps des enfants, Jésus. Il a d'autres choses à faire, etc. Et tout. Et Jésus fit avancer les enfants. Il prend cette occasion-là pour amener plus loin et dire, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour leur pareil. Ça, c'est la parole de Dieu. Seigneur, touche-moi par ta parole, s'il te plaît. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Vous vous rendez compte, la leçon que Jésus donne là, c'est la parole de Dieu. Elle me fait du bien. Seigneur, rencontre-moi, Père. Lisez la parole de Dieu comme cela. Je vous invite à cette lecture absolument extraordinaire, de faire ces relations entre les textes, etc. Prière sacerdotale, je vais terminer par cette prière. Nous sommes au rendez-vous de Jésus avant la croix, et c'est dans Jean 17, bien sûr. Cette prière de consécration, je vais simplement la lire. Après avoir ainsi parlé, donc il parle de tout ce qui est de la venue de l'Esprit, de la séparation et du revoir. Jésus a un cœur brisé, il a aimé ses disciples jusqu'au bout. Et Jésus, dans son affection, dans ses émotions, oui, Jésus a des émotions, oui, Jésus a de l'affection, oui, Jésus n'est pas un robot, oui, Jésus ressent ce que tu as en toi, oui. Il commence à prier, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon ce que tu lui as donné, pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné, et tu fais partie de cela ce matin, amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il n'y a pas d'orgueil dans Jésus, là. Il va passer par la croix. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Jésus qui glorifie son Père. Il n'y a Dieu des yeux que pour son Père. Et Dieu, bien sûr, que son Père. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, la fidélité de Jésus. Ils les ont reçus, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Fais du bien. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Tu te rends compte, quand tu prends les choses, la parole de Dieu, au sérieux, tu glorifies Jésus en toi. C'est magnifique. Tu es un transporteur de la gloire de Dieu. Enfin, comment dire? Tu glorifies le Seigneur. Tu glorifies ce Dieu de gloire, dont les cieux ne peuvent contenir sa gloire. Quand tu crois dans ses paroles, quand tu intègres le Seigneur, quand on va célébrer la Sainte Cène tout à l'heure, quand tu prends ces choses au sérieux, lorsque tu répètes de nouveau tes vœux de baptême, ici, lorsque tu prends la Sainte Cène, lorsque tu veux marcher de manière digne, tu glorifies Jésus en toi. Mais ce n'est pas peu, c'est une révélation, j'ai besoin de revenir à ces choses. Verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, bien-aimés dans l'Église. Pas de division, afin qu'ils soient un comme nous. Si tu es disciple du Seigneur, tu vas rechercher l'unité, tu ne vas pas rechercher la division. » Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné, je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. On parle bien sûr de Judas. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. On parle de la parole de Dieu. Alléluia, parole incarnée, Jésus, il nous l'a donnée. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Pas forcément tout commenter, mais voyez, ça, beaucoup de choses se passent dans nos têtes. Hein. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Parce qu'on a besoin d'être témoins ici-bas encore, témoins de la lumière du Seigneur. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Tu es mis à part par la vérité. L'Esprit te met à part parce que l'Esprit te conduit dans toute la vérité. ta parole est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même. C'est-à-dire que je me mets à part pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. C'est-à-dire, soient mis à part dans la vérité. On a compris. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, afin que tous soient un, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Si l'Église se divise, c'est du baratin pour le monde, bien-aimé. C'est n'importe quoi. Attention. On a le droit peut-être de ne pas être d'accord. Bien sûr, on n'est pas là des dictateurs pour dire, voilà, on est là pour discuter, etc. Mais on est là pour justement vivre cette unité de l'esprit. Et je me demande si nous sommes vraiment animés que de l'Esprit de Dieu. Je provoque, je suis désolé. Que de l'Esprit de Dieu lorsqu'on a des divisions, lorsqu'on a des choses difficiles, lorsqu'on a bien sûr un manque de pardon, lorsqu'on veut semer la zizanie, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Non. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Tu te rends compte, Jésus, l'humilité, je leur ai donné la gloire dans la révélation, dans ces choses extraordinaires, afin qu'ils soient un comme nous, afin, il y a un but, qu'ils soient un, l'unité, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Il y a ce désir du cœur de Jésus de rassembler, c'est le bon berger, c'est le bon berger, c'est le bon berger. Il n'est pas là pour diviser, on sait que c'est l'autre qui divise, vous connaissez ces passages. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. De nouveau, l'unité permet la reconnaissance de Jésus qui a été envoyé pour quelque chose de concret, de bon, de beau au travers de l'Église. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Amen.